justement quelqu'un qui disait dernièrement, c'était, bah, c'est, doit être Manzanares, le professeur Manzanares, qui disait qu'il ne faut pas parler d'ecclésiologie, mais d'israélologie. Alors je me suis senti très, comment dirais-je, très réconforté en lisant ça sous la plume de quelqu'un d'aussi compétent. Voir que bon, voilà quoi. Deux mots peut-être, si vous voulez, pour terminer sur l'antisémitisme chrétien. C'était notre troisième chapitre sur ce plan. Une conclusion rapide, si vous voulez, pour dire que finalement, l'antisémitisme, qui est un virus mutant, comme l'a dit un avocat juif cet an dernier, et qui s'adapte donc à toutes les idéologies dominantes de toutes les époques, finalement, n'a pas à faire directement, comme on a voulu essayer de le faire croire, notamment avec Jules Isaac et d'autres, n'est-ce pas, avec le christianisme. Et l'antisémitisme vient tout simplement de la spécificité d'Israël, l'appel qui implique pour lui une ségrégation qui est la condition de sa survie. Et qui fait que il y a donc une espèce d'agacement de la part des autres nations qui voient justement cette situation-là. Bon, nous avons, pour conclure maintenant sur les relations entre Israël et l'Église dans les premiers siècles, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas trouver véritablement de persécution juive contre les chrétiens après la courte persécution qui a eu lieu qui est évoquée dans le livre des Actes et qui était le fait des Sadducéens, mais la birkat minim, la bénédiction, comme on a dit, des minimes, des hérétiques, montre que la haine n'était pas à sens unique. On a vu aussi le rôle que les rumeurs de dénonciation juives ont joué dans les persécutions romaines contre les chrétiens. Mais quand même, il faut bien se dire qu'il n'y a rien de particulièrement, enfin, de qui soit équivalent en ce qui concerne les manifestations de la haine antichrétienne de la part des juifs aux manifestations de haine de la part des chrétiens vis-à-vis des juifs. On ne peut pas mettre, évidemment, les deux réalités sur le même plan. Même si, encore une fois, la haine n'a pas été à sens unique, c'est pas du tout quelque chose qui peut se comparer. Bon. C'est vrai aussi que certains juifs n'ont pas accepté la restauration du temple par Julien, et parce que pour eux c'était finalement l'œuvre du Messie. Mais aussi dans certaines persécutions, on a vu que des chrétiens ont été sauvés par des juifs, et que même les juifs ont eu une certaine sympathie vis-à-vis des martyrs chrétiens, ainsi que d'admiration bien sûr. Bon, même si certains ont considéré et considèrent encore jusqu'à aujourd'hui que les chrétiens adorent finalement un autre Dieu. Bon, ça c'est évidemment une manière élégante d'éliminer le problème. Ça, un certain nombre de juifs aujourd'hui, je peux dire extrémistes, je ne sais pas exactement, mais enfin disons très traditionalistes en tout cas, et très antichrétiens finalement, ne veulent pas du tout, à l'image d'ailleurs de leur vis-à-vis chrétien tout aussi extrémiste qu'eux, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait le moindre point commun entre christianisme et judaïsme. Pour eux, christianisme et judaïsme sont deux religions totalement différentes, qui n'ont strictement rien de commun, qui ont divergé dès le départ et qui sont devenues donc totalement étrangères l'une à l'autre. Par conséquent, parler de judéo-christianisme est une erreur, parler de continuité entre judaïsme et christianisme, et dire que le christianisme est greffé sur le judaïsme, c'est impossible pour eux, n'est-ce pas ? Et alors évidemment, ça permet de se débarrasser du problème. Le christianisme pour eux, comme le bouddhisme, comme le confucianisme, comme le paganisme, une religion étrangère, point. On peut avoir des contacts, éventuellement, sur le plan, comment dirais-je, humanitaire, il y a une certaine morale commune, la morale universelle, etc. Puis ça va pas au-delà, quoi. Alors ça rend le dialogue particulièrement facile, ça évite toute remise en question. Bon, c'est commode. Et un certain judaïsme aujourd'hui, héritier de ce qu'on trouve justement dans les gens qui ont été à l'origine de la birkat minim, aujourd'hui continue à exister de cette manière-là. Bon. Voilà, si vous voulez, avec ça, on termine sur l'antisémitisme chrétien. On va attaquer maintenant un nouveau chapitre. Alors là, comment dirais-je, ça va être du costaud. C'est ni plus ni moins que la Torah. Et plus particulièrement, on pourrait dire Paul et la Torah. Je dis chapitre extrêmement costaud parce que c'est évidemment une des questions les plus difficiles à traiter qui soit dans la question de l'israélologie. La Torah d'abord. La Torah, évidemment, est pour le juif une partie essentielle de sa foi. Elle lui est absolument consubstantielle, pourrait-on dire. Si on supprime la Torah, il n'y a plus d'Israël. Voilà, ça c'est la première chose à dire quand on parle justement de ce qu'est la Torah pour un juif. La Torah pour un juif, c'est tout. C'est sa raison d'être, c'est le sens de sa vocation, c'est son appel, c'est tout ça. Et alors, on comprend forcément que, à partir du moment où des chrétiens affirment que Jésus a totalement aboli la Torah, et que la Torah n'existe plus, qu'elle est devenue entièrement caduque, eh bien, c'est, si vous voulez, par rapport aux Juifs, faire exactement la même démarche que lorsque les Juifs disent, nous disent, Jésus n'est pas le Messie, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Quand les Juifs nous disent ça, ils touchent à l'essentiel de notre foi. Car si Jésus n'est ni le Messie ni le Fils de Dieu, notre foi est vaine. Elle n'existe plus. Donc la contestation juive touche ici à un essentiel. Et c'est ce qui fait justement que le christianisme, le chrétien, réagit d'instinct négativement face à Israël quand il y a cette contestation. Et c'est aussi une des causes de l'antisémitisme chrétien. Parce que cette contestation, cette négation de sa foi, qui met en cause son existence même de chrétien, fait que Israël est considéré comme quelque chose de dangereux. Il met en péril mon existence même. Maintenant, quand à son tour le chrétien déclare aux juifs, votre Torah est caduque, Jésus l'a abolie, il fait vis-à-vis d'Israël la même démarche. Il touche à son essentiel. Il touche à son existence. Et si la Torah est abolie, Israël n'est plus Israël, et il y a un nouvel Israël qui est l'Église. On retombe dans la théologie de la substitution que nous avons analysée les temps derniers. Et voyez-vous ici, on touche au cœur même du problème des relations judéo-chrétiennes. Dirons-nous religion, mais je mets le mot religion entre guillemets. Parce que le mot religion est une notion moderne. Et une notion qui fausse le débat. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Qui fausse la perspective. Finalement, dire que le judaïsme et même le christianisme sont une religion, c'est quelque chose que les anciens n'auraient pas compris du tout. Si on avait dit à un juif de l'époque de Paul, tu es de religion juive, il n'aurait pas compris du tout ce que ça voulait dire. D'ailleurs, le mot n'existait pas. Le mot dat, en hébreu, qui est aujourd'hui en hébreu moderne, qu'on traduit par religion, avait un tout autre sens à l'époque. C'était coutume, c'était manière de se comporter, c'était etc. Si on avait dit à un chrétien, même non juif, de l'époque du 1er siècle, qu'il était de religion chrétienne, il n'aurait pas compris ce que ça veut dire. Alors ça, il faut faire très attention aussi. Les mots sont piégés. Et la manière de poser les problèmes oriente déjà le débat. Ça, c'est une chose très importante. Si on pose mal les problèmes, on arrivera à des solutions qui sont mauvaises. Et c'est pourquoi il faut aussi reposer les problèmes d'une manière juste, exacte. Pour un exemple. Est-ce qu'on dit une maison construisible ou construisable? Mais voyez que déjà, la manière de poser le problème déroute. Parce que ce n'est ni ça ni ça. Mais si vous voulez dire construisible ou construisable, automatiquement c'est déjà orienter le débat dans une certaine direction. C'est verrouiller, dire voilà, c'est ça ou ça. Et c'est ni ça ni ça, c'est une troisième chose. Il faut un effort pour se sortir de ce dilemme, dire le problème est mal posé. Alors bon, je reprends et je reviens à ce que je disais. Le judaïsme et le christianisme sont deux religions qui sont sœurs, qui sont issues du même tronc, comme nous l'avons vu la dernière fois, mais qui sont dans un état d'opposition radicale parce que l'une et l'autre se contestent dans ce qu'elles ont d'essentiel. Et si le chrétien réagit négativement quand le juif lui dit « Jésus n'est pas le Messie et le Fils de Dieu », et par conséquent, est tenté de voir dans le juif un ennemi, quand le chrétien dit au juif « Ta Torah est caduque et tu n'es plus Israël, c'est moi Israël », eh bien, le juif réagit de la même manière et voit dans le chrétien un ennemi mortel. Alors ça, il faut comprendre. Il faut comprendre parce que ça explique à la fois nos réactions et ça explique à la fois les réactions de l'autre partie, c'est-à-dire justement d'Israël. Voilà. Le problème de la Torah s'est posé dès les origines du christianisme, et plus particulièrement au moment où les païens sont entrés dans l'Église. Et là, une bonne partie des épîtres de Paul, nous aurons l'occasion d'y revoir, sont consacrés à cette question. Bon, il y a eu plusieurs stades, on a vu dans l'histoire. Il y a eu la position radicale marcioniste, qui était donc celle que j'ai dit tout à l'heure, mais dans ses plus extrêmes conséquences. La Torah d'Israël est complètement dépassée, complètement caduque, et l'Ancien Testament aussi. On écarte l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'expression « Ancien Testament » est déjà aussi éloquente d'une certaine philosophie des choses, ancien, caduc, dépassé, pour ça que j'aime pas ce mot. Et il n'y a que le nouveau qui est intéressant, il n'y a que le nouveau qui subsiste. L'Église officielle, la grande Église, a rapidement compris que ce que cette position avait d'intenable. Car finalement dire la Torah est dépassée, et donc les deux religions n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles se sont séparées pour ne plus jamais se rencontrer, eh bien c'est s'autodétruire, c'est couper la branche sur laquelle on s'est assis. Et par conséquent, tout le problème de l'Église chrétienne jusqu'à aujourd'hui par rapport à la Torah, ça a été justement de préciser quelle est la position de la Torah, ce que finalement on appelle l'Ancien Testament, par rapport au Nouveau et par rapport à l'Église. Voilà. Problème qui à ce jour n'est pas résolu, disons-le, et que nous n'avons pas la prétention dans ces études de résoudre. C'est un problème qui reste en suspens. Problème auquel on a donné des réponses diverses dans l'histoire. Nous avons vu Marcion. Nous avons vu la position beaucoup plus nuancée qui a été celle de l'Église du Moyen-Âge, mais qui oscillait entre les deux pôles, entre justement continuité et rupture. C'est finalement les deux pôles qu'il s'agit de situer. Alors, à certaines époques, on a accentué l'idée de rupture. Et puis, quand ça allait trop loin, on s'est dit, mais il y a quand même une continuité. L'Église du Moyen-Âge a surtout insisté sur la rupture. D'où, justement, des conséquences pratiques aussi pour les juifs de chair et de sang, qui faisaient les frais de cette rupture. La réforme a été un retour aux sources, et par conséquent une redécouverte de la Torah, une redécouverte de l'Ancien Testament. Et il y a eu donc à la fois une tendance à réinsister sur la continuité. On considérait justement que les juifs, plutôt que l'Église officielle catholique, avait justement pris trop de distance par rapport à la Torah. Mais en même temps, l'insistance sur la grâce faisait que d'un autre côté, on faisait une certaine lecture des épîtres de Paul, lecture dont nous sommes encore tributaires, y compris en les milieux évangéliques. Une lecture des épîtres de Paul, notamment de l'épître aux Romains, qui privilégiait justement la notion de rupture. Rupture notamment par rapport à la Torah. Et l'opposition classique en théologie protestante, aussi bien luthérienne que calviniste, entre loi et grâce, est évidemment quelque chose de tout à fait classique et de bien connu. Et pour ce faire, on transposait sur le catholicisme la controverse que l'on trouve dans certaines épîtres de Paul à l'endroit d'un certain judaïsme de son temps. Et nous avons vu notamment comment chez Luther et Calvin, on a vu ça dans notre historique, comment chez Luther et Calvin, on croyait retrouver dans la pratique catholique des œuvres et des mérites un certain nombre de points qui étaient ceux justement du judaïsme de l'époque de Paul. On aura l'occasion de voir dans la suite de ces épîtres les limites de cette assimilation et de cette association. Mais en tout cas, finalement, les réformateurs qui ne connaissaient pas le judaïsme, parce que le judaïsme de leur temps n'existait plus dans leur pays, l'Europe occidentale avait chassé tous ces juifs. Un homme comme Calvin, que l'on sache, n'a vraisemblablement jamais rencontré de juif de sa vie. Luther, c'est autre chose. Il y avait des juifs dans son pays, il a eu l'occasion de les fréquenter. Mais Calvin, jamais, n'a jamais vu de juif de chair et de sang. N'a jamais eu l'occasion de discuter avec un juif. Et finalement, le juif chez Calvin a un visage entièrement mythique. C'est pas un être de chair et de sang. C'est un être artificiel qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et qui est le produit à la fois d'une transposition, comment dirais-je, mal comprise d'un certain nombre de données de l'apôtre Paul, et des évangiles, du pharisien, par exemple, tel que une lecture superficielle de l'évangile pouvait le caricaturer, des stéréotypes issus du catholicisme de son temps, du catholicisme du Moyen-Âge, et puis, finalement, du catholique qui fonctionnait dans le système calviniste, du moins le pensait-il, comme le juif chez Paul. Alors, on comprend que là, au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu une rencontre, et il y a un certain nombre de juifs qui se sont intéressés au christianisme, ces juifs, tels Montefiore, par exemple, ont réagi et ont crié très fort, disant, enfin, nous ne nous reconnaissons pas du tout dans l'image que vous avez du juif, vous les chrétiens. Nous ne nous reconnaissons pas du tout, nous ne reconnaissons pas du tout notre théologie de la Torah dans ce que vous nous prêtez comme pensée par rapport à la Torah. C'est pas du tout ça. Pour nous, la Torah n'est pas du tout ça. Bon. Et il faut bien reconnaître que cette méconnaissance du judaïsme, du rôle et de la fonction de la Torah, dans le judaïsme actuel, et a fortiori dans le judaïsme ancien, a faussé la perspective que les chrétiens ont de la Torah jusqu'à ce jour, et contribué à rendre d'autant plus difficile justement cette évaluation du rôle et de la place de la Torah, de sa relativisation par l'Évangile, car c'est vrai, il y a une relativisation de la Torah, mais quelles sont les limites de cette relativisation? Tout le problème est là. Et tout le problème, encore une fois, n'est pas résolu, notamment parce que il faut d'abord réévaluer ce que les Juifs pensent de la Torah. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, finalement, et d'honnêteté tout court. Il n'y a rien de plus désagréable et de plus malhonnête que de se fabriquer un adversaire artificiel en lui prétendant des pensées qu'il n'a pas, en lui prétendant des intentions qu'il n'a pas, et ensuite de le démolir. C'est malhonnête. Bon. Les chrétiens font ça, non pas obligatoirement par malhonnêteté intellectuelle, mais par méconnaissance et par, comment dirais-je, référence à une tradition qui est tellement ancrée dans leur histoire qu'elle paraît comme une évidence. C'est le problème des traditions. Traditions même erronées, eh bien, finissent par apparaître comme des évidences. Et justement, toucher à ces évidences, toucher à ces traditions-là, c'est comme disent les anglo-saxons, toucher à une patate chaude et risquer de se brûler les doigts. C'est pourquoi, justement, nous voulons faire ça avec un luxe de précaution. Donc, ici, la Torah, maintenant, peut quand même être l'objet d'une réévaluation, plus objective. Pour deux raisons. La première, parce que depuis le 19e siècle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un dialogue timide, mais réel, a pu s'instaurer entre chrétiens et juifs. Et il y a des études, comment dirais-je, très honnêtes, qui ont été faites en milieu chrétien, pour essayer de comprendre comment un juif vit la Torah. Et finalement aussi, à partir des textes anciens, comment un juif du 1er siècle vivait la Torah, parce que ce n'est pas exactement la même chose, comme on l'a vu aussi dans la partie historique, bien souvent que pour un juif aujourd'hui. Bon. Deuxième point. Il est vrai que pour un chrétien moyen, la question de la Torah ne se pose pas. La cause est entendue. Christ est la fin de la Torah. Point final. Terminé. Le christianisme en lui-même jouit maintenant d'une histoire vieille de 2000 ans, qui fait que c'est une institution, il touche un tiers de l'humanité, et si vous voulez, il n'a plus besoin d'Israël pour vivre. Il n'a même plus besoin de ses racines. Il existe par lui-même. Donc, pour le chrétien moyen, y compris les églises évangéliques, la question des racines juives de l'Évangile ne se pose pas. Voilà. Et il est beaucoup plus commode de dire, Shabbat, les fêtes, tout ça, on n'en parle plus. Nous allons fêter Noël, nous allons fêter l'Assomption, nous allons fêter la Toussaint, etc. Terminé, c'est une évidence. Il n'y a même pas de justification théologique à apporter sur ces points-là, parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, du moins le pense-t-on, et puis voilà, c'est tout. Bon. Par contre, il y a une autre catégorie de gens pour lesquels ce problème devient un problème majeur. Ce sont les judéo-chrétiens ou les juifs messianiques. Et notre siècle, finissant, enfin le siècle dernier, a vu, à partir des années 70, de nombreux juifs se tournaient vers l'Évangile, notamment aux États-Unis, les pays anglo-saxons. Et jusqu'alors, à cause justement de ce trait définitif tiré sur la Torah par les chrétiens, on considérait comme une évidence, pour le petit nombre de juifs, minuscule nombre de juifs, qui, comme on disait à cette époque-là, se convertissaient à l'Évangile, ont considéré comme une évidence que ces gens-là cessent d'être juifs pour devenir chrétiens, cessant d'être juifs, et c'est là que le mot religion est piégé, la religion dont je parlais tout à l'heure, justement. Et il était de religion juive, il devient membre de la religion chrétienne, donc il abandonne la religion juive, c'est évident. Si le judaïsme est une religion, quand on se convertit au christianisme, on abandonne le judaïsme, ça tombe sous le sens. Et par conséquent, toutes les pratiques juives, tournez un trait dessus. Tiens, je pourrais vous amener à l'occasion le formulaire que les conversos en Espagne devaient remplir quand ils se convertissaient au christianisme, disant qu'ils abjuraient, qu'ils plus jamais ne respecteraient ni Shabbat, ni Kashrut, ni célébreraient Pessah, etc. Enfin bref. Et que si jamais il leur arrivait de retomber dans ces erreurs hérésies judaïques, eh bien, ils reconnaissaient qu'ils étaient coupables et passibles des flammes de l'Inquisition. C'était signé de leur main. C'était jusque-là. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais l'esprit de l'Inquisition continue. Et jusqu'à Yosef Rabinovitch, pratiquement, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e siècle, aucun juif converti, entre guillemets, n'aurait eu l'idée de se référer en quoi que ce soit à la Torah. Il passait à une autre réalité. Bien. À partir de Joseph Rabinovitch, puis, évidemment, à partir des années 70 du siècle dernier, beaucoup de juifs se sont tournés vers Jésus, dans lequel ils ont vu, beaucoup d'ailleurs de ceux qui étaient avant eux, l'accomplissement des espérances d'Israël. Mais en même temps, pour un juif, même un juif détaché de toutes les choses religieuses, et c'était souvent le cas, il y avait des juifs qui n'étaient juifs que de nom, il y avait un grand courant aussi de conversion au christianisme en Allemagne au 19e siècle, et au bout d'un temps, même si dans un premier temps, le juif se détourne totalement de la Torah, eh bien, vient un moment dans son cheminement spirituel où la question de ses racines se pose. C'est très intéressant, par exemple, de lire le livre du cardinal Lustiger, le choix de Dieu, ça s'appelle, je crois, quelque chose comme ça, c'est ça, le choix de Dieu, où Aaron Lustiger, quand il est devenu Jean-Marie Lustiger, eh bien, cardinal de l'Église catholique, finalement, a une réflexion sur ses racines juives. Il ne peut pas en faire l'économie. Et tôt ou tard, c'est quelque chose qui lui revient. Quid de mes frères. Finalement, c'est un petit peu la démarche de Moïse. Moïse à la cour de Pharaon. Qui apostasie finalement, qui s'assimile, qui n'a plus rien à voir avec son peuple, et puis un jour qui est pris d'une curiosité qui le dépasse, et c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille retrouver ses frères, et c'est là qu'il voit leur misère, etc. Et bon, il va s'identifier à eux, quoi. Bon, ou alors, pour le juif, c'est la haine de soi, que vous trouvez chez Simone Weil, par ministre, l'ancienne ministre, mais la philosophe, s'écrit pas de la même manière d'ailleurs, je crois que Weil, notre Simone à nous, s'écrit avec un V, Weil, la philosophe allemande, juive allemande, s'écrit avec un W. Simone Weil qui s'était mis à haïr tout ce qu'il y avait de juif en elle-même, au point de se haïr elle-même, et puis finalement de rentrer joyeusement dans la chambre à gaz, quoi. Elle n'avait pas, en tant que ayant en quelque sorte l'héritage du judaïsme dans ses gènes, elle n'avait pas à vivre, quoi. C'était ça. Bon. Et nombre de convertis juifs ont fini comme ça. Ça, c'est pas un cas isolé dans l'histoire. Finalement, le juif converti se trouve dans cette espèce de no man's land, où il est tiraillé, n'est-ce pas, entre sa foi en Jésus, qu'il a reconnu comme vrai, et puis finalement son héritage juif. Et pour certains juifs, cette tension devient tellement insupportable, eh bien qu'elle aboutit donc, oui, au suicide. Au suicide. Bon. Et justement, le phénomène nouveau qui marque notre époque, c'est qu'un certain nombre de juifs se sont dit, après tout, pourquoi faudrait-il, quand nous nous tournons vers Jésus, que nous apostasions et que nous renoncions à notre héritage juif et notamment à la Torah. Pourquoi faudrait-il que nous cessions de pratiquer, que même nous nous détournions avec horreur de ce que Jésus lui-même a pratiqué jusqu'à sa mort? C'est évident que Jésus, jusqu'à sa mort, a vécu sous la Torah. C'est l'Évangile qui le dit, c'est Paul lui-même qui le dit. Jésus est né d'une femme, né sous la Torah. Romains 15, n'est-ce pas ? Je dis que le Messie a été fait serviteur des circoncis pour confirmer les promesses faites au Père. Donc c'est très clair. Évidemment, plusieurs judéo-chrétiens, aujourd'hui, se sont posés la question, mais si Jésus, lui, le Messie, a été serviteur des circoncis, est-ce que finalement nous avons raison de nous détourner justement de la circoncision? Non. Et finalement, le mouvement judéo-chrétien dont nous avons parlé dans notre historique, et qui était ce tampon, ce pont, ce lien entre christianisme et judaïsme, et c'est un phénomène nouveau, ça, de notre temps, est en train de renaître. Et finalement, cette vieille question de la Torah, que l'on croyait résolue une fois pour toutes dans le christianisme, depuis les origines et depuis Nicée en particulier, est en train de ressurgir. Et nous retrouvons les mêmes problèmes que ceux qui sont évoqués dans le Nouveau Testament, aujourd'hui. Quid des Juifs qui ont cru en Jésus ? Leur est-il permis, oui ou non, de respecter la Torah? Jusqu'où? Quid de la circoncision? Quid du Shabbat? Quid de la cacheroute? Et pour les non-juifs? Leur est-il licite de, etc. Et on retrouve finalement les mêmes débats, les mêmes controverses que dans le Nouveau Testament. On retrouve tout l'éventail qui est exposé dans le Nouveau Testament. Depuis les extrémistes qui disent, et c'est par exemple, il y a tout un courant parmi les juifs messianiques américains qui ont cette position, la Torah est totalement caduque et les juifs qui ont cru en Jésus n'ont plus rien à faire avec la Torah. Il y a un courant qui dit ça. Et à l'extrême inverse, vous avez des gens qui disent, un petit peu comme les gens de Jacques dont il est question dans l'Épître aux Galates, il faut absolument respecter scrupuleusement toutes les ordonnances rituelles juives. C'est une obligation pour les juifs que nous sommes, même si nous avons cru en Jésus, jusqu'au point de même prendre des distances vis-à-vis des croyants non-juifs. C'est excessif, mais on trouve ces excès déjà dans le Nouveau Testament. On trouve aussi, hélas, et ça c'est quand même très préoccupant, les mêmes déviations que celles qu'on a trouvées dans les premiers siècles, notamment avec les évionymes, qui... par souci d'être acceptés par leurs frères juifs non croyants en Jésus, étaient allés jusqu'à nier la divinité de Jésus. Et hélas, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, très récemment en tout cas, il y a au sein des juifs messianiques un courant qui nie la divinité de Jésus. Et en même temps, évidemment, ce courant dans ses excès, et même dans ce qu'il peut avoir de bon, de biblique, suscite des méfiances, des réserves, et voire même des oppositions, de la part des non-juifs. Et l'on peut craindre, que l'on assiste à une nouvelle excommunication de ces judéo-chrétiens. C'est personnellement ma grande crainte. Comme il y a eu dans les premiers siècles. Il est certain que là, la question de la Torah s'est posée aux judéo-chrétiens, disons, pas le mot messianique, parce que le mot messianique tel que l'avait employé Rabinovitch et ensuite Zev Kosman était très spécifique et aujourd'hui on l'emploie à toutes les sauces. Le mot messianique ne représentait pas tous les juifs qui avaient cru en Jésus. Alors gardons, si vous voulez, le sens large, le mot judéo-chrétien qui comprend les messianiques et les autres. Mais ce problème, la Torah s'est posée particulièrement aux judéo-chrétiens, notamment aussi dans le contexte de la résurrection de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il y a des réponses diverses. Là aussi, la question est en gestation. Finalement, le monde pagano-chrétien, c'est-à-dire les chrétiens d'origine non-juive, que nous sommes, se trouve, volens nolens, confronté à nouveau à la question de la Torah par l'intermédiaire des juifs croyant en Jésus. Et qu'on le veuille ou non, cette question revient à l'ordre du jour. Et comme l'a écrit David Stern, qui est un des principaux penseurs du mouvement judéo-chrétien aujourd'hui, qui vit en Israël, pour les pagano-chrétiens, la Torah est souvent terra incognita, terre inconnue. Ce qui s'oppose absolument à ce que Paul nous dit quand il écrit aux chrétiens de Rome, qui étaient essentiellement des pagano-chrétiens, jugez-en vous-même, je parle comme à des gens qui connaissent la Torah. Aujourd'hui, même parmi les conducteurs des églises, les théologiens, il y a une formidable méconnaissance de la Torah. Et c'est pourquoi toute démarche préalable devrait être justement de redécouvrir ce qu'est la Torah. Donc, nous, déjà, cet exposé global nous montre sur quel terrain miné nous sommes quand nous abordons la question de la Torah. Mais, comme si ça n'était pas suffisant, il y a un autre champ de mine qu'il nous faut traverser. C'est la question de Paul. Paul et la Torah. Paul est un monde en lui-même. Et lorsque nous lisons ce que Pierre écrit à son sujet, eh bien, il y a de quoi frémir. Notre bien-aimé frère Paul, qui dit des choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur ruine et pour la ruine de ceux qui les écoutent. Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Tenons-nous-le pour dit. Et soyons modestes quand nous nous mettons à l'écoute de Paul. Autre remarque, boutade, sous forme de boutade, qui émane d'un juif orthodoxe, mais très ouvert à la question de Paul, Shalom ben Chorin. Shalom ben Chorin, qui a écrit deux livres sur Paul, Mon frère Paul et Paul, un regard juif sur l'apôtre des nations, écrit à peu près ceci. Les chrétiens ne doivent jamais oublier que Paul n'était pas un pasteur de l'église réformée suisse, disciple de Karl Barth, mais un rabbin juif du 1er siècle, disciple de Gamaliel. On pourrait, si vous voulez, faire l'exégète de cette phrase très dense, et finalement, ça doit être aussi un deuxième point de repère. Finalement, c'est tout l'équivoque dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous lisons Paul au travers la tradition chrétienne. Une tradition qui a méconnu la Torah et qui, par conséquent, bien disons les choses telles que Pierre les a dites, a tordu les paroles de Paul. Et on a fait justement de Paul, et il a raison, Shalom et Horib, un disciple de Karl Barth, surtout dans les milieux protestants, pasteur de l'église réformée suisse. Il a raison. C'est une boutade, c'est un peu caricatural, mais c'est profondément vrai. Et si nous voulons comprendre Paul, il nous faut repartir à la découverte du disciple de Gamaliel, rabbin juif du 1er siècle. C'est fondamental. Si nous ne voulons pas tordre les paroles de l'apôtre. Paul était un rabbin juif du 1er siècle, disciple de Gamaliel, nous dit Shalom ben Horin. Mais il y a une troisième remarque aussi que nous pouvons faire au sujet de Paul, ce qui était celle du professeur Safraï. J'ai aussi beaucoup étudié cette question. Paul, dit-il, est un parchan. Ah ! Qui sait ce que signifie le mot parchan ? Allez dire. Alors, il disait, il ajoutait, il n'est pas un théologien, il est un parchan. Allez dire aux chrétiens dans les églises, Paul n'était pas un théologien, mais un parchan. Il veut dire que c'est cet animal-là. Un diplodocus, un dinosaure, un batracien, un mammifère, c'est quoi? Demandez à un théologien chrétien ce qu'est un parchan, vous aurez à peu près la même réponse. Eh bien justement, un parchan, et c'est là justement qu'il y a une grande équivoque, c'est qu'on a voulu voir dans Paul un théologien. Et là, on pourrait prendre aussi la remarque de notre regretté frère Simra Permouter, quand il disait « Vous avez occidentalisé le Messie ». On pourrait dire « Vous avez aussi occidentalisé Paul ». Ce qui d'ailleurs, un évêque luthérien suédois, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, a magistralement illustré. Vous avez fait de Paul un cartésien, qui résonne, bon, il y a une logique chez Paul, c'est indiscutable, mais ce n'est pas la logique occidentale. Ce n'est pas la logique cartésienne. Ce n'est pas l'exposé théologique systématique qu'on exige des étudiants de quatrième année dans les écoles de théologie du monde occidental. Et finalement, on étudie l'Épître aux Romains, on étudie les œuvres de Paul avec cette perspective-là. Prenez un homme comme Godet qui a dit des choses excellentes sur l'Épître aux Romains. Mais Godet fait cette erreur-là. Godet aborde l'étude de l'Épître aux Romains comme un exposé de théologie systématique de Paul, où Paul expose sa théologie comme le ferait un Karl Barth ou comme le ferait un théologien moderne, comme le ferait Calvin, par exemple, dans l'institution chrétienne. Shmuel Safraï nous dit non, vous vous trompez complètement, les chrétiens, quand vous voyez ça. Parce que si vous faites de Paul un théologien de cette manière-là, vous allez arriver rapidement à des problèmes. Le premier problème, c'est que vous allez constater que d'une épître à l'autre, Paul se contredit. C'est gênant pour un théologien. Vous allez constater que Paul, en quelque sorte, change de théologie d'une épître à l'autre. Et ça, c'est sûr, les théologiens l'ont constaté. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Deux choses. Toutes les épîtres attribuées à Paul ne sont pas de Paul. Première chose. Et quand on trouve une épître qui a une autre théologie que celle des Romains, par exemple, des Galates, on dit c'est du nôtre pain de Pâques que de Pâques. Bon. Autre solution, c'est de dire Paul évolue. Le Paul jeune n'avait pas la même théologie que le Paul vieux. Le Paul qui écrit les Épîtres aux Thessaloniciens a complètement changé de théologie quand il écrit les Épîtres à Timothée et à Tite. C'est vrai qu'il y a toujours un mûrissement dans une vie d'homme, mais changer aussi radicalement de théologie pour un homme aussi, comment dirais-je, aussi logique que Paul, ça paraît quand même un peu difficile. Et c'est là justement que la remarque de Shmuel Safraï est tout à fait intéressante. Un parchan, c'est pas un théologien. Le judaïsme ignore ce qu'est un théologien. Il n'y a jamais eu de théologie. Il n'y a pas de théologie juive jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. La théologie est quelque chose d'occidental. Et les juifs eux-mêmes s'y sont trompés. Ils nous disent « Paul est le fondateur du christianisme parce que le christianisme est fondé sur la théologie. » Et c'est Paul le premier théologien chrétien. Et ça, c'est un poncif que vous trouvez dans tous les ouvrages écrits par des juifs sur le christianisme. Paul, créateur du christianisme, parce que le premier des théologiens. L'enseignement des rabbins est très particulier. C'est le jeu des questions et des réponses. Vous trouvez ça déjà dans l'évangile de l'enfance, deuxième chapitre de Luc. Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Il interroge les docteurs. Et vous voyez ça souvent aussi avec Jésus. Jésus est un parchan, lui aussi. Jésus répond quand on lui pose une question. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Rabbi dit à mon frère de partager mon héritage. Et Jésus donne un enseignement sur l'avarice. C'est l'occasion de donner un enseignement. C'est l'occasion qui fait que on va traiter une certaine question. Bon. Plus tard, on a déjà vu ça aussi en histoire d'Israël, le système des responsae. Un problème pratique, parce que le judaïsme est une démarche pratique, c'est une halakha. Il n'y a pas les grands envols théoriques, philosophiques qu'il y a dans le monde occidental, influencés par l'hellénisme. On est pratique. Bon. On a ici dans notre communauté un gars qui est parti, était marchand ambulant, est parti à l'autre bout du monde, vendre sa marchandise, puis pas revenu. Ça fait maintenant 10 ans qu'il n'est pas revenu. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. Est-ce qu'on peut considérer que sa veuve, sa femme, est libre ou non de se remarier? Un problème pratique. On en a discuté avec notre rabbin, mais on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie une question aux académies de Babylonie. Asura, Pumbedita, Neardea, etc. Et là, les plus grandes autorités se penchent sur la question. Et on voit une responsa qui va faire autorité dans toutes les communautés. Et on sait que maintenant, quand on aura un problème de ce type qui se produira ailleurs, voilà la conduite qu'on adoptera. Les épîtres aux Corinthiens sont uniquement de ce type-là. Vous m'avez posé des questions au sujet du mariage. Voilà ce que je dis. Vous m'avez posé des questions au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. On est ici exactement dans un système juif et c'est exactement ce que font les parchanim. L'explication en situation. Une des épîtres considérées comme les plus anti-légalistes est l'épître aux Galates. Et l'épître aux Galates, eh bien, et quoi? Une réponse en situation. Il y a une situation. Ces Galates ont été travaillés par des judaïsants qui sont venus de Jérusalem sans ordre de nulle part, et il y a un danger de déviation. Paul rétablit la barre qui penche. Hop. Et quand on rétablit comme ça une barre qui penche, on ne fait pas trop de détails. Hein. Tchouk. On donne un grand coup dans le sens inverse, parce que sinon la barque va renverser. Et il ne faut pas absolutiser ce qui a été écrit là. C'est dans la situation particulière des Galates. Et alors, justement, quelle était la situation des Galates? Ah ben, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui a motivé l'apôtre à écrire comme il l'a fait? Une situation pratique. Un problème pratique. Pourquoi Paul écrit aux Romains? Parce qu'il a envie de décrire une grande théorie? Non, non, non. Parce qu'il a envie de faire ça? Non, 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 non. Il y a des situations pratiques. Des situations pratiques. Et c'est ça, les parchanim. Ils répondent à des situations concrètes. Et dans une situation concrète, vous n'allez pas donner obligatoirement la même réponse que dans une autre situation concrète, diamétralement opposée. Même Finet dit ça. Il dit, dans une église où on a prêché la grâce pendant des années, on va insister, il y a un déséquilibre. Il faut rétablir l'équilibre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va insister sur les devoirs du chrétien. Au contraire, dans une église où on a beaucoup mis l'accent sur les devoirs du chrétien, et où il y a un déséquilibre qui s'est créé, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut insister sur la grâce. Finet était à ce niveau-là un bon parchal. Il était aussi un homme pratique. C'est pour ça qu'il était un parchal, à sa manière. Et c'est pour ça que quand on lit les épîtres de Paul, on a l'impression parfois de contradictions. Mais pas des contradictions. C'est des réponses à des situations diverses. Pourquoi, par exemple, Paul déclare-t-il, semble-t-il dire en tout cas, aux Galates, que toute pratique juive est quelque chose d'abominable? Et il dit le contraire aux Romains. Là, il va parler des faibles et des forts. C'est indifférent, laisser chacun suivre son chemin. Et puis après, il va au contraire dire, ou plutôt c'est lui qui nous dit ça dans le livre des Actes, que lui-même vivait comme un juif. Et puis après, il dit, mais je me suis fait grec avec les grecs, avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi. Alors, Paul est un caméléon, il change d'attitude, comme ça, selon le gré du vent. Non, non, il y a une logique. Et là, c'est pareil, si on absolutise ça, on dit, ben voyez, non. Ce que Paul veut dire, c'est tout simplement ceci. Je n'ai pas fait de ma judéité quelque chose que j'ai mis en avant quand ça aurait pu être un obstacle pour ceux auxquels j'annonçais l'évangile. C'est tout simplement ça qu'il dit. C'est tout. Alors il faut comprendre Paul en situation. Et ça, c'est pas toujours facile parce que ces situations-là, nous ne les connaissons plus toujours exactement. Et c'est là justement que tout un travail de recherche historique s'impose. Et un travail humble et patient, avant de retrouver justement et de mieux comprendre ce qu'était interlévangé. Autre point, justement, comme tout parchal, l'apôtre Paul ne détaille pas. Comme il le dit lui-même, j'écris à des gens qui connaissent la Torah. Donc pas besoin de détailler. Vous savez très bien. Et il y a souvent des allusions comme celle-là, même par exemple aux Thessaloniciens. Vous savez très bien ce qui retient l'Antichrist pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ben, il savait, mais nous ne savons pas. Il savait. Parce que l'Antichrist est un enseignement juif. Bon. Vous savez très bien de quoi je fais allusion. Je vous ai parlé quand j'étais avec vous, vous en souvenez. Ou bien, je fais allusion à une parole de Jésus que vous connaissez tous. Au sujet du mariage, par exemple. Et là, on ne détaille pas, les choses connues. Et elles ne sont pas toujours connues pour nous. Bon. Et la méthode d'exégèse de Paul. La méthode associative. La Bible, déjà dans le Premier Testament, mais aussi dans le Nouveau, n'agit pas par déduction logique, à la manière du syllogisme cher aux philosophes grecs, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. C'est pas ça. C'est pas association. Nos pères ont été sous la nuée. Et vous aussi, automatiquement, ayant été baptisé dans le Saint-Esprit, bon, une association d'idées. Le Kal Vachomer. Si une chose est ainsi, à combien plus forte raison telle autre ? Du particulier au général, du plus petit au plus grand. Ça, méthode d'exégèse juive banale, à l'école de Gamaliel et dans le Talmud, on trouve ça à fond. Bon, on pourrait prendre de multiples exemples qui montrent que Paul, et Ben Horin a raison, n'est pas un théologien occidental, mais vraiment un rabbin juif de son temps, qui, évidemment, comme le dit aussi Jésus, tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est vrai qu'il y a aussi des ruptures, mais il y a aussi une continuité dans ce domaine-là. Et c'est très difficile, justement, de comprendre pour un occidental qui est habitué au cartésianisme, qui est habitué à toute une tradition interprétative qui remonte aux origines, qui remonte à Saint-Augustin essentiellement, très difficile, justement, d'entrer dans cette dimension, dans cette perspective-là. Et alors, justement, tout ce problème de la Torah devient problème, justement, parce qu'on l'aborde mal. Je disais tout à l'heure, on pose mal le problème. Construisible ou construisable, c'est du même genre, c'est le même problème. Et on ne sort pas de ce dilemme-là. Ancien et Nouveau Testament. Bon, c'est des mots, ça, de toute façon, qui sont piégés. On aurait demandé à Paul, on aurait parlé à Paul de l'Ancien Testament, il aurait dit, c'est quoi ça, l'Ancien Testament ? C'était un mot qui n'existait pas de son temps. C'est évident. Ah, la Torah ! Ah bon, alors là, oui, bon, voilà, je comprends. Et pas la loi. Ça aussi, ça c'est piégé. On traduit par la loi. C'est pas innocent. La Torah, c'est autre chose que la loi. C'est vrai qu'il y a de la loi dans la Torah, mais c'est plus que ça. La Torah, c'est l'enseignement. Bon. Et puis aussi, justement, il y a beaucoup de mots pour parler de Torah dans la Bible, dans la tradition juive. Il y a la Torah. Il y a son application dans la vie courante, c'est la halakha. Il y a les mitzvot, il y a les mishpatim. Il y a les drachei haaretz. Bref, il y a toute une terminologie technique en hébreu pour ce qui fait, pour ce qui concerne l'exégèse de la Torah. La Torah Sheba Aktav, la Torah Sheba Alpe. Bon. Et le grec, et ça c'est un autre problème. Le grec n'a aucun mot pour désigner ces nuances-là, ces nuances de l'hébreu. Et finalement, toutes ces nuances-là, qu'on trouve déjà dans la Bible, certaines d'entre elles du moins, eh bien, les Septante, en traduisant la Bible en grec, ont rendu tout ça par un seul mot, nomos, la loi. S'il est vrai que trahir, c'est traduire, c'est trahir, ça n'a jamais été aussi vrai que là. Et le mot nomos appauvrit considérablement, justement, ces réalités-là. Et Paul est obligé, parce qu'il écrit en grec, il n'a pas d'autre solution que d'employer le mot nomos, chaque fois. Mais là où il faudrait employer halakha, il faudrait employer mitzvah, où il faudrait employer Torah Shebaal Ktav, ou Torah Shebaal Pe, il y en a toujours le mot nomos, parce qu'il n'en a pas d'autre, dans cette langue qu'est le grec. Et alors justement, là aussi, bon, quelquefois, il est obligé de... Il précise un peu, je ne suis pas sous la Torah... je suis sous la Torah du Messie, la Torah de l'esprit de vie m'a affranchi de la Torah du péché de la mort. Bon, mais ça veut dire quoi ça ? Rien. Il faut le traduire en hébreu. Il faut retrouver à quelle réalité Paul fait allusion. Il parle de halakha, d'agada, de midrash. Qui sait ça ? Qui sait ce que ça veut dire aujourd'hui parmi le christianisme ? Pratiquement, je ne sais pas, une minorité de gens qui ont eu l'occasion de fréquenter Israël et les juifs. Alors voilà la Torah. La Torah, bon, c'est tout, toute la Torah, tout l'Ancien Testament. Allez hop, ouf, on balance tout. Mais non, il y a des nuances là-dedans. Bon, je termine simplement en disant quelle est la clé qui nous permet de comprendre la pensée de Paul sur la Torah. Et ça, c'est fondamental. Cette clé, on la trouve justement dans Romains 3. Il faut relire le texte parce qu'il est essentiel sur ce qu'est la pensée de Paul dans la Torah. Où donc, verset 27, est le sujet de se glorifier est exclu. Par quelle Torah? Par la Torah des œuvres? Et là, on est dans cette ambiguïté. Il faudrait traduire par les mitzvot. Ou par la loi de la foi? C'est autre chose. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la Torah, sans les mitzvot. Ou bien Dieu est-il seulement le juif? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis au moyen de la foi des circoncis. Et voilà le mot important, verset 31. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Paul était bien conscient qu'on pouvait faire un contresens énorme sur ce qu'il écrivait. Et dès le moment où il va commencer à exposer ce qu'il appelle son évangile, il met en garde. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi? 99% des théologiens chrétiens vont répondre oui, Paul a aboli la loi par la foi. Et qu'est-ce que dit Paul? Chas v'chalil, au contraire. C'est hors de question. Loin de moi cette pensée. Nous confirmons la Torah. Confère. Matthieu 5, sermon sur la montagne. Parole de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah et les prophètes. Annulons-nous la Torah par la foi. Finalement, Paul dit, il peut y avoir sur mon évangile la même ambiguïté qu'il peut y avoir sur les paroles de Jésus. Et dès le départ, Jésus dit, non, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En hébreu, c'est l'ekayem, et là, c'est le même mot. Anachnu mekayimim et ta Torah. L'ekayem, ça veut dire quoi? C'est un terme aussi du vocabulaire rabbinique. Et là, on est en plein dans le pécheur. On en parlait tout à l'heure, les parchanim. C'est le travail des parchanim. Nous donnons le sens exact de la Torah. Voilà. Le bon commentateur, le scribe, instruit des choses du royaume des cieux. Le scribe fidèle, le parchan fidèle, c'est celui qui donne le sens exact du commandement, qui met en lumière ce qui est caché, le sens exact. Et là, justement, Paul se défend d'avoir voulu abolir la Torah. Vous voyez, on fait une opposition entre Paul et Jésus. C'est classique en milieu juif. Jésus était un bon juif, il a respecté les commandements, il est né en juif, il a vécu en juif, il est mort en juif, etc. Il n'a jamais voulu créer une autre religion, il s'est présenté comme un réformateur du judaïsme, etc. Bon, mais Paul est celui qui a aboli la Torah. Pas de chance. Paul se défend justement de ça comme Jésus s'en est défendu. Je termine un peu parce que je crois que c'est quand même important qu'on termine sur ce point parce qu'il est essentiel. Dans la tradition juive, la Torah est fixée, vous le savez, jusqu'au moins trait de lettre, comme dit Jésus. Disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre. Elle est fixée une fois pour toutes. On ne peut rien modifier. Mais cette parole qui a été donnée en situation est une réponse pour toutes les situations qui peuvent se présenter dans l'avenir. Et quand je fais face à un problème nouveau, je peux être sûr que je vais trouver la réponse dans la parole de Dieu. C'est ce que nous pensons, nous aussi les chrétiens, finalement. Ça veut dire que le texte reste le même. Mais les rabbins ont dit qu'il y a 70 facettes à chaque commandement. Ça veut dire que le commandement va s'interpréter aussi en fonction des données nouvelles. Il a une réponse à donner, une donnée nouvelle. Et ce qui fait que ce qui était vrai en quelque sorte, pas ce qui était vrai hier, c'est peut-être un peu excessif de dire des choses comme ça, mais que ce qui a été, comment dirais-je, dans une situation, eh bien, va s'interpréter différemment dans une autre situation. Exemple. Toute la législation qui concerne le temple, les sacrifices dans le temple. Bon, très bien. Le temple est détruit. On ne peut plus mettre en pratique ses commandements. Donc ces commandements sont rendus caducs. Et là, on me trompe. Annulons-nous la Torah ? Et certains disent, oui, le temple est détruit, donc c'est fini. Et les rabbins disent non. Nous allons réinterpréter les commandements en fonction d'exil. Il fallait offrir 3 sacrifices par jour. On va offrir 3 prières par jour dans la synagogue. La synagogue remplace le temple. Parce qu'on est dans une situation nouvelle, une situation d'exil. Bon. Tu ne feras aucun travail le jour du Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma voiture ? La Torah ne répond pas à ça, forcément. Il n'y a pas de voiture à l'époque de Moïse. Et les rabbins disent non, pourquoi ? Parce que la voiture est un engin qui est un moteur à explosion. Donc, il y a du feu dedans. Et c'est interdit d'allumer le feu le jour du Shabbat. Donc, tu ne prendras pas ta voiture. Rouler à bicyclette, tu peux. Pas de problème. Une voiture, non. Voilà. Ça, c'est un exemple, justement. Comment on accomplit la Torah ? Er mekayemi meta Torah. Une situation nouvelle implique une interprétation nouvelle. Une application nouvelle pratique dans la situation nouvelle, tout simplement. C'est pas qu'on change, on a une situation nouvelle. Or, on a une situation parfaitement nouvelle depuis que Jésus est venu. Le Messie est venu. Il est mort et il est ressuscité. Ça change tout. Ça veut dire que maintenant, la Torah, elle ne va pas changer. Pas un trait de lettre, pas un iota ne va disparaître. Mais la manière dont elle va être appliquée est nouvelle. C'est ça. Il faut adapter la Torah à la situation nouvelle, créée par la mort et la résurrection de Jésus, la venue du Messie. Nous sommes dans un temps nouveau. Donc, il faut une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, c'est pas on met de côté l'ancienne, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non. C'est l'alliance renouvelée. C'est la même alliance, mais avec une interprétation nouvelle qui s'est adaptée à la situation nouvelle dans laquelle on est. Et les Juifs ont un livre qui a fait ce travail. C'est le Talmud. Le Talmud, c'est l'adaptation de la Torah à la situation d'exil. Une situation nouvelle. Or, je vais vous dire une chose qui peut vous faire bondir, mais que Safrag a mis en évidence depuis longtemps. Le Nouveau Testament, c'est le Talmud des chrétiens. Ça veut dire, c'est la réinterprétation de la Torah à la lumière de l'événement Jésus. Ce n'est pas l'abolition de la Torah. Ce n'est pas l'Ancien Testament, et maintenant nous avons le Nouveau Testament, la nouvelle alliance qui a été prophétisée par Jérémie. C'est l'alliance renouvelée, Brit Hadasha, qui a été renouvelée, sur laquelle on a jeté un regard nouveau, sur laquelle on fait une interprétation nouvelle. Voilà. C'est ça la clé. Et quand on a compris ça, eh bien, 90% des problèmes que pose Paul et l'interprétation de la Torah chez Paul trouve leur solution. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi, mais enfin, des choses difficiles à comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Question ?
Mais est-ce que vous n'arrivez pas, non, justement, à relativiser beaucoup de choses ?
Vas-y.
Pas forcément,
Mais la loi d'amour, elle est déjà dans la Torah ancienne.
Mais justement, la loi d'amour, justement, négativement,
c'est-à-dire,
finalement...
Oui, on a...
On
évacue toute la halakha, justement.
Toute la substance, finalement.
Toute la halakha, toute la manière pratique de vivre, cette loi d'amour. C'est ça, la halakha, c'est la pratique. Évidemment. Mais c'est ce qu'on.
Par rapport à ceux qui ont ça, c'est la réinterprétation.
Attention. Qui est habilité pour faire cette réinterprétation? Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour faire cette réinterprétation. Et justement, là, Jésus, lui, est celui qui peut faire cette réinterprétation parce qu'il est le Messie. Et Paul dit, nous avons l'Esprit du Messie. Nous les apôtres. Et donc la révélation de Dieu et tout ça. Ah oui, ça, c'est, n'importe qui ne peut pas se lancer dans cet exercice-là. Encore que, pour des problèmes nouveaux. Par exemple, admettons, la question de les greffes d'organes. On a un problème qui se pose, qui pourrait se poser même dans une conscience chrétienne, disons. On est obligé, c'est là que aussi le Seigneur donne le pouvoir des clés. C'est ça le pouvoir des clés. Tout ce que vous lirez et tout ce que vous délirez. C'est ce que font par exemple les Amish, le réflexe Amish dont il nous était parlé à Carré. C'est ça. Invention de la télévision. Qu'est-ce que dit la Bible? Rien de la télévision. Et pour cause, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là justement, les autorités de l'Église ont le pouvoir des clés.